écoutez La Vie Électrique sur Radio Panique. Bonjour Peggy.
Bonjour Pierre.
Aujourd'hui dans La Vie Électrique, on va parler du dernier roman de Richard Powers. Mm-hmm. On va faire un tour chez les grands anciens avec Clark Ashton Smith.
On va parler aussi un peu de musique avec un groupe du Canada.
Du Québec même, carrément.
Oui, carrément du Québec.
Carrément
c'est vrai.
Du Québec, Voivode. Aussi des vétérans d'ailleurs, moins anciens que Clark Ashton Smith, mais enfin déjà une longue carrière. Un petit mot peut-être aussi sur le festival Offscreen et sur le numéro 2 du Retour de la Revanche de Metal Hurlant. Voilà, un sommaire bien rempli, de la musique aussi. Et on est ensemble pour une heure. Entendez là dans le fond, outre aussi une sirène parce qu'on m'aère, c'est toujours Sauveur Malia qui nous sert pour le moment d'indicatif avec son morceau Star Odyssey. Je propose qu'on commence avec Richard Powers.
Eh oui, alors vous allez me dire, mais pourquoi parler de Richard Powers dans La Vie Électrique? Je ne sais pas si tu connais, toi.
Moi, j'en ai jamais lu. Ben, ouais. C'est un peu sur la limite.
Oui,
pas vraiment de la science-fiction, mais presque.
Oui, mais non, mais peut-être.
Mais
fait,
c'est pas grave.
Hein, oui, mais c'est...
On a décidé d'élargir nos définitions. Donc,
Mais là, en l'occurrence, on est quand même plutôt du côté des littératures de l'imaginaire, même si c'est vrai que Richard Powers, il est connu pour des livres qui sont vraiment de la grosse littérature ou de la littérature blanche, comme on dit, du côté des grands romans américains qui paraissent du coup chez Actes Sud. Et là, en l'occurrence, le livre dont je vais parler...
Qui paraissait avant au Cherche Midi, qui n'est pas vraiment un éditeur de science-fiction.
Voilà, mais Actes Sud, pas vraiment non plus.
De temps en temps, voilà. C'est un éditeur quand même.
Oui, c'est vrai, Louis XVI, c'est chez Actes Sud, hein,
ouais,
il me semble.
Ils ont leur collection, ouais, exofiction maintenant.
Mais là, il est présenté un peu sans qu'il y ait de précision. Richard Powers, c'est donc un écrivain américain qui a eu plein de grands prix, genre Pulitzer, et qui est très connu notamment pour un livre qui s'appelle « Le temps où nous chantions », qui raconte une espèce d'épopée américaine où on suit une famille juive et afro-américaine au cours de l'histoire du XXe siècle, avec plein de rebondissements. Donc c'est plutôt ce genre de roman d'habitude, en tout cas tel que moi je le connais, puisque j'avais lu le temps où nous chantions, même si je ne l'avais pas fini, j'avoue qu'au bout d'un moment ça m'avait un peu ennuyé pour être gentil.
Sortons le mot.
Voilà, mais je sais que c'est un auteur qui est suivi par beaucoup de gens et que chacun de ses romans a beaucoup de succès. Et celui-ci, je l'ai découvert un peu par hasard en feuilletant, en regardant sur les tables. Je me suis dit, mais tiens, c'est marrant cette histoire. Là, on a peut-être un petit peu dans autre chose, sachant que Powers, apparemment, depuis un certain nombre d'ouvrages, vient titiller des questions de la science, notamment de la génétique, mais pas que, dans ses histoires. Et ce livre, Sidération, est apparemment la suite de son avant-dernier succès, celui qui lui a amené le Pulitzer de la fiction en 2019, qui s'appelle L'Arbre Monde, que je n'ai pas lu, et qui parle beaucoup d'écologie et aussi de rapport entre les morts et les vivants, puisque dans ce premier livre, L'Arbre Monde, c'est quelqu'un qui a une near-death experience et qui après va voir le monde différemment, et voilà, et le livre démarre là-dessus. Et dans celui dont j'essaye de vous parler, la Sidération, on est un peu dans cette espèce de narration, de littérature qui va un peu utiliser des ressorts de science-fiction ou des thématiques, enfin des choses qui sont un peu spéculatives pour parler d'aujourd'hui, mais essayer quand même d'un peu de penser demain, puisque Sidération se passe dans un temps qui ressemble à aujourd'hui, mais qui est un petit peu différent. Enfin, pas complètement. Il y a des guerres, des épidémies.
Jusqu'ici, ça, c'est pas très différent.
Voilà. Mais c'est un peu aujourd'hui poussé à l'extrême avec des présidents américains encore pires que Trump et puis des catastrophes écologiques à l'échelle mondiale, mais plus avancées que celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc on n'est quand même pas tout à fait aujourd'hui, mais le monde n'est pas complètement différent de celui dans lequel on évolue.
On serait dans un futur proche.
Voilà, c'est futur très proche, un peu dystopique, mais pas trop non plus. Voilà. Donc... ce qui, moi, m'a intéressé, et c'est pour ça que j'en parle ici, c'est que Bah, vous allez voir, il y a des ressorts de cette histoire qu'on a déjà un petit peu entendu. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Théo et qui a un garçon qui s'appelle Robin. Robin est un garçon qu'on dirait aujourd'hui neuroatypique, qui fait beaucoup de colère, qui est très intelligent, mais qui est aussi très instable, qui n'arrive pas à rester à l'école, etc. Et à un moment donné... Robin, qui est lui un chercheur en exoplanètes, donc c'est sa spécialité, il travaille sur le cosmos, va de plus en plus être dans la nécessité de s'occuper de son fils et de délaisser ses activités professionnelles parce que sa femme est morte et qu'ils se retrouvent comme ça tous les deux à devoir quelque part s'occuper l'un de l'autre. Et un ancien ami de la mère de Robin va à un moment donné proposer à Théo de faire participer Robin à une expérience. Et une expérience qui vise à, ce coup-ci, non pas le rendre plus intelligent, puisqu'il l'est déjà, à essayer de calmer, de tempérer ses émotions. Évidemment, je dis... dans cette expérience-ci, puisque en fait, ça ressemble à une histoire qu'on connaît, puisque ça ressemble, à ce stade-là, à Des fleurs pour Algernon.
Oui, j'ai vu que c'était comparé assez régulièrement.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est normal, parce que la trame y ressemble très très fort, avec beaucoup de nuances, évidemment, puisque ce n'est pas la même histoire, mais la trame est à ceci d'identique que... l'expérience va fonctionner et puis à un moment donné, elle va devoir s'arrêter et le personnage va régresser et va se voir régresser. Et donc ça, c'est vraiment comme dans Des fleurs pour Algernon. Et ce qui est intéressant, et c'est aussi pourquoi je voulais parler de ce livre ici, c'est que le personnage de Robin lit Des fleurs pour Algernon et à plusieurs moments dans l'histoire, va se demander et demander à son père si lui aussi, il va être comme la souris. Donc, c'est clair que quand Powers écrit ce bouquin, il a Daniel Case en tête. Donc là, il n'y a aucun mystère. Et c'est vrai que la trame y ressemble pour beaucoup, avec évidemment plein de nuances, puisque ce n'est pas le même type d'expérience. Ce n'est pas le même type de personnage, puisque là, c'est sur les émotions que l'expérience va porter. Et finalement, il y a tout le reste qui n'a rien à voir. Puisque on va beaucoup s'attacher à suivre à la fois cette relation père-fils, mais aussi les difficultés que rencontre un chercheur en cosmologie dans cette Amérique de dans pas longtemps, qui nous ressemble un peu, mais quand même. Et on va aussi être à travers la mémoire de la femme, et donc la mère de Robin, aussi confrontée à ce que c'est que la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on n'est là pas du tout dans le même type de contexte que Des fleurs pour Algernon, mais il y a quand même vraiment des parallèles et volontaires là, de Richard Powers. Et c'est son attrait, puisqu'il a une formation plutôt scientifique, en fait, à la base, même si aujourd'hui il est prof de littérature, pour ces questions de génétique, de science et notamment de neurosciences, qui, je pense, lui ont fait prendre comme base Des fleurs pour Algernon pour écrire ce roman qui l'amène, lui, ailleurs. Parce qu'il y a quelque chose de différent aussi, dans ce que il y a quelque chose de très... Alors que l'histoire est absolument sinistre, au final, celle de Sidération, et pourtant, il y a quelque chose de très positif dans le livre. Il y a vraiment de très beaux moments, notamment des moments où ce père et ce fils regardent les planètes ensemble et s'imaginent des autres univers. Et là, tous ces moments où ils sont deux à imaginer des autres vies dans d'autres univers, là, on est complètement dans des passages qui sont complètement de science-fiction. Mmh. Voilà.
J'ai vu que pas mal de gens avaient un peu du mal avec la sentimentalité du roman, le côté doux.
Justement, oui, c'est vrai que c'est un roman qui est très sentimental, très doux, très affectif, très émotionnel. Et alors, c'est drôle parce que c'est plutôt ce que j'ai aimé, en fait. Parce que pour le coup, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, c'est que par rapport à un livre qui aurait été presque purement de la science-fiction, il y a toute cette dimension justement émotionnelle qui en fait correspond bien aux difficultés du personnage principal qui est Robin, qui est dans l'incapacité à gérer ses émotions et qui à travers l'expérience, c'est des scientifiques qui ont capté des ondes cérébrales de sa propre mère et qui, pour réguler ses propres émotions, vont servir de ces ondes cérébrales. En gros, pour aller vite pour l'expérience. Et c'est vrai que là, il y a toute une histoire aussi autour de la transmission entre cette mère morte et ce fils, et que tout tourne autour de cette question de la famille, de la transmission, de comment faire pour s'aider les uns les autres face à la douleur, la mort, et les difficultés de la vie dans un contexte qui est celui d'une forme d'apocalypse aussi. Et donc oui, il y a un côté très doux. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé, justement. Par rapport à d'autres livres un peu dystopiques où on sort, où on se pense qu'on va se pendre, et ben là, il y a quand même un petit peu autre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, au-delà du fait que ce soit une énorme référence à un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est Des fleurs pour Algernon.
Alors, il était sorti en anglais en septembre 2021, donc c'est allé très, très vite. Oui. Cette traduction française, elle est quand même bien. Au niveau écriture, et
bah, ça sent pas la traduction. Non, je l'ai lu sans aucune difficulté, donc j'ai pas été frappé par des problèmes de traduction, ce qui peut m'arriver des fois, mais ouais. Là, ça m'a pas frappé, mais peut-être parce que j'étais prise par toute cette sentimentalité.
Ce qui est un bon signe aussi. Sidération de Richard Powers.
Voilà.
C'est donc chez.
C'est Actes Sud.
Voilà. On écoute un petit morceau et on passe à autre chose après. qu'on entendait là, c'était Tenno Africa, alias Lutendo Raduva. Je ne sais pas si tu connais ça.
C'est un Sud-Africain, non ?
Ouais. Un très jeune musicien qui vient de Pretoria.
Ouais, j'ai pas écouté ça, ce que tu viens de passer, mais j'avais écouté un maxi qui était sorti, je pense, il y a un an ou deux.
Ouais.
Très, très bien.
Très, très bien. Effectivement, là, il y a un album qui est sorti début du mois de février et qui est vraiment très bien. Je me proposais de vous tenir au courant de l'évolution des choses à Metal Hurlant.
Ah oui, ça m'intéresse, puisque la dernière fois, tu n'étais pas très enthousiaste.
J'étais partagé. Je n'ai pas non plus tout jeté à la poubelle, mais effectivement, le premier numéro, il y avait quelques soucis. Mais alors, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Le principe qui avait été décidé au départ reste le même, c'est-à-dire que c'est un gros trimestriel de 300 pages qui va alterner un numéro avec des nouvelles histoires et un numéro qui sera une sorte d'anthologie avec des choses qui sont parues dans le Metal Hurlant historique. On vous rappelle cette revue de bande dessinée au départ uniquement de science-fiction, mais après un peu plein d'autres choses, qui avait démarré en 75 et qui s'était arrêtée en 87. Donc tout ça remonte quand même à assez loin.
Un temps que les moins de 20 ans.
Voilà, et on n'en fait pas partie, nous deux. Donc ce principe-là reste, donc ce deuxième numéro qui vient de paraître, c'est le premier dans ce modèle anthologie avec des histoires classiques. Mais par contre, entre-temps, ce qui a changé, c'est l'équipe qui est derrière. Parce que donc, au départ, ce projet avait été lancé par les gens d'une société qui s'appelle, je pense, Atanor, qui est la société de Vincent Bernière, qui a aussi relancé les cahiers de la bande dessinée.
D'accord. Ah oui, oui.
Et donc, il y avait une équipe qui avait été formée avec des... C'était une coproduction entre la société de Vincent Bernière et les Humanoïdes Associés, la maison d'édition historique de Metal Hurlant. Et donc, il y avait une équipe qui avait été formée, etc. Et puis, en fait, manifestement, les Humanoïdes Associés étaient à la fois très enthousiastes de voir que ça marchait bien, et que plein de gens ont acheté ce premier numéro et se sont abonnés, etc. Mais n'étaient pas très convaincus par le contenu de ce numéro. Et donc, ils ont décidé de continuer sans la société de Vincent Bernard.
Ouais.
Et donc, voilà, forcément, ça change. Alors... La rédaction de départ, c'était Vincent Bernière, Nicolas Tellop. Il nous avait aussi annoncé Sabrina Calvo, mais pour finir, elle n'était pas du tout là. Ce qui était sans doute bien dommage. Et aussi Hugo Bienvenu, mais en fait, pour finir, il a juste dessiné une histoire, mais sinon, il n'intervenait pas du tout. Et effectivement, c'était un peu faiblard au niveau rédactionnel, etc. Enfin, je vous renvoie à l'émission, on en avait parlé il y a quelques mois. Et donc, tous ces gens sont partis. Et maintenant, c'est Jerry Friesen qui dirige la rédaction. Jerry Friesen, il a travaillé pendant très longtemps comme directeur artistique pour les Humanos. C'était lui qui faisait les couvertures des albums, etc. Okay. Il est aussi scénariste de bande dessinée. Il n'a jamais travaillé comme éditeur, donc ça va être un peu ses débuts là-dedans. Par contre, moi, je l'ai longtemps suivi sur les réseaux sociaux et un peu correspondu avec lui. C'est vraiment un dingue d'illustration de science-fiction et d'images un peu bizarres des années 70, 80, ou parfois remontant plus loin que ça. Il a vraiment une culture visuelle qui est assez intéressante. Il est installé en Californie, mais c'est un Belge au départ.
Et, alors ça va alors.
A priori, ça pourrait être un bon profil. Et donc, c'est lui qui va diriger ça maintenant avec comme ange tutélaire Jean-Pierre Dionnet retour.
Oui. Ok, d'accord.
Donc voilà, on se dit que ça sent plutôt bon, mais en même temps, il va peut-être falloir attendre quand même le numéro 3 où c'est des nouvelles histoires pour voir ce que ça vaut. Parce que là, ce numéro 2, c'est une anthologie de choses qu'on a déjà lu, avec tout un rédactionnel autour de l'histoire de Metal Hurlant, où il se la joue un peu dans le genre, on a changé la face du monde. Bon, c'est pas entièrement faux non plus, mais enfin, parfois, un rien de modestie ne serait peut-être pas malvenu. Mais bon, voilà, c'est plein d'anecdotes, c'est assez drôle. Et alors, les histoires, on a des classiques évidemment de Moebius, de Drouillet, mais alors aussi des choses plus... que certains considèrent d'un goût plus douteux, mais moi je suis assez content de les voir aussi en fait. Donc il va rechercher des choses comme Alvos ou Sergio Macedo ou des choses que plein de gens considèrent comme très laides et très datées années 70, mais en fait c'est pas inintéressant qu'ils ne réécrivent pas l'histoire en gardant que les choses
qui étaient
qui sont toujours considérées comme de bon goût aujourd'hui.
Oui, c'est ça. D'accord. Ils vont vraiment rechercher dans cette histoire, y compris et ils assument complètement toute cette histoire. C'est-à-dire qu'ils n'en font pas un tri.
Pour le moment, en tout cas, c'est l'impression que ça donne et ce qui est, à mon avis, plutôt une approche intéressante. Globalement, les gens ont l'air assez contents de ce numéro 2, mais en même temps, le comparer au numéro 1 n'a pas beaucoup de sens.
Oui,
je suis pas certain, je suis pas entièrement convaincu par cette idée d'alternance numéro vintage et numéro nouveau. Enfin, bon, voilà, ils sont là-dessus. Le numéro 3, il arrivera normalement dans 3 mois et il parlera de la planète Mars.
D'accord. Ah oui, donc du coup, ils partent sur une thématique qui peut permettre peut-être plus de choses que cette alternance.
Ils auront chaque fois des thématiques pour les numéros avec du nouveau matériel. Ils l'avaient déjà pour le premier numéro où c'était futur proche.
D'accord. Okay. Voilà.
Pour le moment, on ne peut pas dire que les thématiques soient totalement révolutionnaires.
Oui, c'est ça.
Mais en même temps, bon. Ce qui compte, c'est ce qu'il y aura dedans et on attend de voir. Mais alors, en discutant un peu à gauche, à droite, manifestement, le rôle de Dionnet dans tout ça, c'est pas du tout d'aller travailler à la rédaction, parce que ça, il a déjà fait, il veut plus faire. Mais par contre, manifestement, il envoie des liens avec des nouveaux dessinateurs plusieurs fois par jour à Jerry Friesen.
D'accord, ok.
Qui fait le tri entre les...
Donc, il est toujours sur la brèche, quoi.
Les 10 idées à la minute.
C'est ça de Dionnet.
Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Et en attendant, ce numéro 2 est plutôt agréable. Et il semblerait aussi qu'on soit parti pour une histoire judiciaire entre les humanoïdes et la société de Bernière, parce que ça ne se termine peut-être pas en bons termes.
Oui, on peut imaginer que si les gens des cahiers de la BD, puisque je lisais un peu de temps en temps les cahiers de la BD, se sont lancés dans cette aventure-là, l'ont porté jusqu'à là, et pour se faire éjecter, on peut imaginer
que... Peut-être pas contents.
Ouais, voilà. Qu'il ne soit pas tout à fait content.
Si un jour on n'en sait plus, on vous racontera si c'est intéressant, mais rien n'est moins sûr. Un petit morceau de Voivode. Allons au Québec et aussi dans l'espace.
Voilà. Voivode, alors à ma grande surprise, Voivode est toujours vivant.
Ouais, on écoute un morceau et on en parle après.
Alors on va écouter
Planet Eaters,
ouais. Et puis j'en parle après alors.
Ah, mais là, ça ne marche pas, évidemment. C'est ma faute. Les voilà, Voivode.
Orbits or resort will be open soon.
pas en train d'écouter Onde de choc, c'est toujours La Vie électrique. C'était donc du métal québécois, mais aussi interplanétaire, avec Voivode.
Oui, Voivode. Alors pourquoi Voivode, vous allez me dire parce que, bon, déjà, Voivode, en 2022, donc il y a un mois à peu près, a sorti un nouvel album. C'est un groupe qui a 40 ans d'existence, je pense.
Ouais, et qui est effectivement, en 82, exactement.
Et qui est effectivement un groupe québécois de Jonquière, à la base. Leur bled d'origine, c'est intéressant. Et en fait, Voivode est un personnage de science-fiction qui a été inventé par le feu guitariste Denis Damour, un des fondateurs du groupe. Et c'est un personnage qui est moitié robot, moitié vampire. Et leurs premiers albums, en fait, tournent autour de différents personnages comme ça qui vivent dans un monde apocalyptique. Alors ça change un petit peu après, je pense, le troisième ou quatrième album, puisqu'ils en ont fait, je pense, une quinzaine. Mais là, dans Synchroanarchie, qui est c'est l'album qui vient de sortir, on retrouve à nouveau ces thématiques science-fiction, post-apocalyptique. Alors, ils ont eu des chansons qui parlaient aussi de l'ère Reagan, de toutes sortes de choses un peu plus politiques, contemporaines. Mais c'est vrai qu'une de leurs caractéristiques, que ce soit au niveau des pochettes qui sont dessinées par je ne sais plus quel membre du groupe, et au niveau des thématiques des chansons, en fait, l'essentiel de leur carrière est une carrière de musique de science-fiction, même si c'est du métal et que c'est pas forcément la musique qu'on associe tout de suite à la science-fiction. Alors ils ont eu plusieurs périodes. Là, ils reviennent à quelque chose un peu plus trash metal, mais ils ont une période progressive, assez presque aérienne, notamment à l'époque d'un album qui s'appelle Nothing Face. Vous avez fait une reprise de Astronomy Domine de Pink Floyd, mais ils ont fait d'autres reprises qui ont un rapport avec le genre, puisqu'ils avaient fait une reprise de Batman aussi. Et clairement, que ce soit à travers leurs pochettes et leur musique, ce sont des amateurs des genres imaginaires. Et je trouvais que ça collait bien avec notre émission.
Est-ce qu'ils sont du genre à faire des albums concept avec une histoire?
Alors oui, dans les albums du début, oui. Ouais. Après, ça s'est un peu calmé, même s'il y a des thématiques qui reviennent. Mais il me semble que Killing Technology, Dimension Atroce et un autre qui s'appelle très, très gentiment Roar. Je crois que ce sont des albums qui racontent des histoires.
Ok, et eh ben voilà, Voivode. C'est tout ou encore
Non, c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et bah voilà. Et en fait, cet album, je trouve très bien aussi. J'avais un peu lâché depuis les années 90, puisque donc ça fait leur grande période à la fois en termes de reconnaissance et de vente de disques. Hein, si on passe par là, c'est vraiment les années, la fin des années 80 et le milieu des jusqu'au milieu des années 90. Et puis donc Denis Damour décède, je pense dans les années 2000. Et après ils se perdent un petit peu. Mais là c'est un vrai retour avec des membres qui sont les mêmes qui font l'album et qui font les tournées, puisqu'ils ont une période où il y avait, je pense, l'ancien bassiste de Metallica qui jouait avec eux, Jason Newsted, pendant tout un temps. Mais là, voilà, c'est presque... Alors, il y a les membres originaux qui n'ont jamais quitté le groupe, et puis il y a des membres qui sont suffisamment stables depuis longtemps pour que ce soit vraiment redevenu un vrai groupe. Voilà, moi, je trouve bien ce disque. Voilà.
Ouais. Synchro Anarchy de Voivode, sorti tout récemment, un album de 2022. Je voulais vous dire un petit mot de la programmation du festival Offscreen.
Ah oui, très bien. Bonne idée.
Festival qui commence aujourd'hui même, et c'est jusqu'au 27 mars. Ça se passe au Cinéma Nova, à la Cinémathèque et aussi au Ritz pour quelques séances. D'accord. Et comme chaque année, c'est un programme assez riche et assez formidable. Il y a les off-screenings qui sont les films inédits, une dizaine de films inédits. Certains vont sortir en salle, la plupart pas. C'est donc souvent des occasions uniques de les voir en salle. Mm-hmm. Il y a notamment le nouveau Peter Strickland, vous savez, celui qui avait fait Berberian Sound Studio.
Ah, pas du tout. Non, alors là, tu me perds totalement.
Ah, c'était très, très bien. Et le nouveau film de Lucile Adzi-Halilovic. Enfin, voilà, il y a des tas de choses qui ont l'air très bien là-dedans, qu'on n'a forcément pas encore vu puisque c'est des inédits. Mm-hmm. Il y a un cycle consacré à Hong Kong qui est assez composite parce qu'en fait, il reprend des choses que l'équipe de Offscreen voulait programmer en 2020 où le festival avait été interrompu par le confinement.
D'accord.
Et par ailleurs, d'autres choses qu'ils ont développées depuis. Donc, il y a à la fois des choses assez production générale Hong Kong, mais plutôt pré-rétrocession, donc dans la grande période du cinéma de Hong Kong, et aussi toute une partie qui est consacrée à la catégorie 3. La catégorie 3, c'est un peu l'équivalent hongkongais du classement X, qui ne concerne là-bas pas que les films explicitement sexuels, mais aussi des films qui sont particulièrement violents ou immoraux.
Et immoraux, j'imagine qu'avec la Chine actuelle, ça peut vouloir dire tout et son contraire.
Alors, c'est les classements de l'époque. Hein.
Ah, c'était c'est pas les classements de maintenant.
Non, c'est les classements du Hong Kong, du Hong Kong britannique.
D'accord, ok.
Protectorat britannique avant la rétrocession en 1997. Et donc, il y a là-dedans des films avec des tortures, des meurtres d'enfants, des choses. Enfin bon, il faut parfois bien s'accrocher, mais c'est plein de choses assez intéressantes. Et bon, on sait que une partie du public de Offscreen, c'est aussi des amateurs de cinéma de l'extrême, et là ils en auront pour leur argent. Il y a aussi un hommage à Jeff Lieberman avec 4 films qui sont proposés et il sera là pour les présenter, et un petit cycle consacré à Lovecraft et aux adaptations de Lovecraft au cinéma.
Alors ça fait peur hein, quand même. Pour l'instant, j'ai rien vu de bien.
Ben, auteur hautement problématique pour ce qui est de l'adaptation visuelle, hein, puisque ça tient quand même beaucoup sur le nom montré.
Oui, tout à fait.
Mais ça a donné lieu à des films intéressants, mais qui ne sont pas forcément toujours très fidèles à Lovecraft. Il faut bien le dire, là-dedans, il y a à boire et à manger. Mais, voilà.
Mais dans ceux qui vont passer, tu en as déjà vu ?
Alors j'en ai vu certains. Il y a... Bon, il y a Color Out of Space, qui est un film assez récent que je n'ai pas vu.
Ah, mais que j'ai vu, celui avec...
Avec Nicolas Cage.
C'est horrible. C'est avec un T de horrible.
Oui. Disons que les avis sont assez partagés là-dessus.
En fait, ce qui est fou avec ce film, c'est que c'est même pas une adaptation. Et en film, si tu le prends tel quel, il est mauvais aussi. Donc, il n'y a rien à sauver pour moi.
Il y a les Stuart Gordon, From Beyond et Reanimator, évidemment. Il y a In the Mouth of Madness de John Carpenter, qui est quand même un assez chouette film. Il y a encore d'autres choses qui ne me disent absolument rien du tout. Il y a ce film à sketch à qualité très très variable qui était sorti dans les années 90, Necronomicon, Book of the Dead.
Ah, mais j'ai pas vu, ouais.
Avec 3 histoires réalisées par Christophe Gans, Shusuke Kaneko et Brian Yuzna. Et je me souviens qu'il y en avait au moins une des 3 qui était très bien, mais je ne sais plus laquelle. C'était sans doute pas Christophe Gans. Mais voilà, des choses qui valent quand même la peine d'être vues et des choses qu'on n'a pas très souvent l'occasion de voir. Bref, voilà, un large programme, aussi une séance de court-métrage avec que des court-métrages belges. La sonnette sonne beaucoup aujourd'hui, je suis désolé.
Oui. Si c'est pas la sirène dans la rue, c'est la sonnette.
Voilà, c'est comme ça. Et ça, ce sera le 17 mars, les courts-métrages. Bref, voilà, plein de choses. Allez voir offscreen.be pour le programme complet. Ça commence aujourd'hui et ça dure 2 semaines. Et c'est un très, très beau festival fait par des gens authentiquement passionnés par leur sujet. Et on recevait une des programmatrices
mardi
dans Les Promesses de l'Aube. Donc vous pouvez retrouver ça en podcast sur le site de Radio Panique.
Trop bien.
Si vous voulez en savoir un peu plus. On écoute parmi les morceaux que tu nous proposes cette semaine.
Pour changer, puisque aujourd'hui j'ai ramené plusieurs trucs qui, a priori, ne semblent avoir aucun rapport, mais en ont. Et je peux m'expliquer. Je propose que tu mettes les Moody Blues.
Les Moody Blues, Higher and Higher.
Yes.
Ça commence doucement.
belting forth with the power of 10 billion butterfly sneezes. Man, with his flaming pyre, has conquered the wayward breezes. Climbing to tranquility, far above the cloud, conceiving the heavens, clear of misty shroud. Vast vision must improve our sight, and perhaps at last we'll see an end to our home's endless blight and the beginning of the free. Climb to tranquility, finding its real worth, conceiving the heavens, flourishing on earth.
Oui, oui,
les Moody Blues.
Les Moody Blues, avec un extrait d'un album qui s'appelle To Our Children's Children's Children. Et alors, pourquoi j'ai pensé que ça pouvait coller avec la vie électrique, c'est qu'en fait, les Moody Blues ont fait plusieurs albums concept qui étaient tous en rapport avec des questions futuristes, en fait. Des projections sur des futurs imaginaires, et notamment celui-ci. Mais il y en a d'autres, hein, puisqu'ils ont notamment un album qui s'appelle Days of the Future Past, comme le X-Men. Et donc voilà, du coup, en fait, notamment parce que il y a toute cette dimension de musique progressive qui, pour moi, a un petit peu de rapport. En tout cas, si on fait un retour en arrière temporel dans ce que la musique du futur pouvait vouloir dire à cette époque. Et en fait, je pense que les Moody Blues sont un peu, pour une partie de leur carrière, complètement là-dedans. Pas pour tout, hein, parce qu'il y a des chansons, 1917, Satin, tout ça, on est un peu dans autre chose. Mais un morceau comme celui qu'on vient d'entendre, ben, on est à cheval entre... entre prospection et psychédélisme.
Et qui est assez magnifique d'ailleurs, c'était Higher and Higher.
Yes.
Rien à voir d'ailleurs avec le morceau Northern Soul du même titre.
Non plus.
Et bah, dans les retours dans le passé, là on va retourner chez les pionniers genre avec Clark Ashton Smith.
Oui.
On parlait à l'instant de Lovecraft, on reste un peu dans la même famille d'écrivains.
Mais c'est vrai que pour les gens qui suivent un peu l'émission, l'univers Lovecraftien, c'est un univers que j'aime bien, hein. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et là, je suis tombé sur le livre dont je vais vous parler, qui est Zootique, qui est une retraduction de Clark Ashton Smith chez Nemos. Alors, c'est paru en grande édition d'abord, mais moi, je suis tombée sur l'édition de poche. Et en fait, ils se sont lancés chez Nemos. Alors, Nemos, pour ceux qui ne suivent peut-être pas, c'est une maison d'édition qui a été fondée dans les années 90. Un des fondateurs part de Nemos et fonde Bragelonne. Donc on est vraiment dans cet univers. C'est des gens qui viennent plutôt du jeu de rôle et qui au départ ont fait plutôt, pour Nemos en tout cas, ils ont plutôt édité des auteurs francophones. On parlait tout à l'heure de Sabina Calvo. Ben, Sabina Calvo était édité chez Mnemos. Et puis, progressivement, ils se sont mis à retraduire des textes classiques du fantastique, dont Clark Ashton Smith. Et donc là, Zotik s'inscrit dans une série de retraductions de Smith, et c'est le premier volume de, en tout cas trois volumes pour l'instant, de retraduction de Clark Ashton Smith. Clark Ashton Smith étant un écrivain poète, alors que qui était donc ami avec Howard Philip Lovecraft, et qui est assez particulier dans la série des amis de Lovecraft. Il y a des gens très très différents, puisqu'il y a Bloch. Par exemple, Bloch a une destinée et une vie qui n'a rien à voir. C'était pas un reclus, lui, par contre. Mais Smith était bien un reclus.
Il y a aussi Robert Irwin Howard.
Oui, il y a Derleth. Enfin, voilà, on a des gens très très différents qui ont des carrières et des productions littéraires très très différentes. Mais pour Clark Ashton Smith, il a un certain nombre de parallèles avec Lovecraft, à ça de près que je pense qu'il était quand même bien moins dans la haine du monde entier que Lovecraft. Mais il a quand même vécu aussi comme un reclus. Et alors, il a une particularité, c'est que pendant tout un temps, ses parents ont pu s'occuper de lui. Il n'a pas travaillé, mais il a été amené à travailler puisqu'il a fini par devoir s'occuper de ses parents déclinants. Et parmi les choses qu'il a fait, c'est qu'il a traduit Baudelaire en anglais, entre autres choses, puisqu'il s'était formé lui-même je pense, au français et à l'espagnol, ce qui est quand même assez balèze. Et c'était vraiment un fan de la poésie parnassienne, donc Théophile Gautier, Verlaine, Mallarmé. Et il a écrit pour une partie de la poésie.
Et il a traduit aussi Baudelaire.
Oui, oui, c'est ça, il a traduit Baudelaire. Il a été d'abord dans une première phase très art pour art, influencé par les Parnassiens, il a écrit la poésie. Et d'ailleurs, Zootique, le livre dont je vous parlais maintenant, démarre par un poème qui va être une espèce de charpente de l'ensemble des récits, puisque c'est un recueil de nouvelles, une espèce de charpente des récits qui sont pas poétiques, mais qui vont suivre. Mais il a un style assez particulier d'écriture, où on sent cette influence romantique, on va dire, parce qu'il y a une vraie propension à décrire les paysages. Il y a des envolées lyriques, quoi. Voilà.
Oui, aussi un goût pour les mots rares et précieux.
Voilà,
et
tout à fait.
Un côté un peu fin de siècle, sauf qu'on était déjà dans le siècle suivant.
Tout à fait. C'est vrai. C'est bien. C'est tout à fait ça. Et en fait, il y a un petit côté suranné, mais que moi j'aime assez bien. Parce que justement, la langue que lui, là, même dans cette traduction, que lui utilise pour nous raconter ses histoires morbides, je trouve qu'elle va vraiment bien avec les histoires. Donc, il a eu cette première phase, Smith, très poétique, etc. Et puis après, il a publié des nouvelles dans Weird Tales. Et ensuite, chez d'autres éditeurs. Et Zootik, c'est une partie des textes qui ont été publiés donc, plus tard, quand il est sorti un peu de cette période poétique. Et il a écrit pour des revues connues comme Strange Tales et d'autres auteurs. Il a été aussi publié, je pense, chez Arkham House, la maison de Derleth. Voilà, donc là, la série de trois livres qui sont donc dans la collection Helios chez Mnemos date.
À l'époque, il a un peu fait tout ça sans succès. Hein, aussi,
oui, oui, oui. Non, non, bah, oui, non, je dis ça comme s'il avait, il avait des millions de fans qui le suivaient partout, mais ce n'est pas le cas.
Ça a
hein.
été très confidentiel voilà, pendant presque toute sa vie. C'est que vraiment à la fin qu'il y a eu un peu de reconnaissance.
Oui, et puis un peu comme une partie des gens du réseau Lovecraftien. C'est finalement avec le temps qu'on a fini par apprécier leur travail. Mais malgré tout, il a quand même toujours trouvé des espaces pour publier ses textes, et notamment pour les livres dont je parle là aujourd'hui, chez un éditeur qui s'appelait Ballantine Books, où sont parus l'ensemble des nouvelles qui sont traduites là maintenant chez Mnemos. Et donc, lui, il a quand même écrit jusqu'à sa mort, et ces nouvelles-là sont parues après sa mort, hein. Donc, il y a eu ces recueils ont été faits en fait post-mortem. Et donc, Zootik, donc dans cette nouvelle traduction, c'est en fait pourquoi j'ai un peu insisté sur son parcours littéraire, c'est qu'en fait, il était vraiment obsédé par la France. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait jamais été, mais il était obsédé notamment par l'Auvergne et par son imaginaire de l'Auvergne. Il a donc créé un univers avec une île qui est zootique notamment, mais un univers qui s'appelle l'Averroigne, qui est donc une espèce de monde mythique inspiré de la France, dans lequel toutes ces histoires se passent, une espèce d'Auvergne médiévale fantastique qui n'a jamais existé, mais que lui remanie en y ajoutant un peu de cet univers lovecraftien. Et donc, cette contrée mystérieuse dans laquelle se passent l'ensemble des nouvelles et de Zotique et des autres titres, donc c'est cette espèce de monde imaginaire, mais très inspiré de ce que lui imagine que la France a pu être. Voilà. Et Zotique, c'est, pour le premier tome, une île éloignée dans laquelle se passe l'ensemble des nouvelles du premier tome. Ensuite, il est en Auvergne. Enfin, j'arrive jamais à le dire. En Auvergne. Et donc, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que par rapport à d'autres auteurs de l'univers lovecraftien, on n'est pas face à des personnages qui vont aller dans une contrée reculée et puis vont à moitié devenir fous, etc. Non, tout se passe dans un univers qui n'a rien à voir, qui est morbide, où il y a des morts vivants. Enfin voilà, on est complètement dans un univers fantastique et d'horreur. Et en fait, il se préoccupe pas trop d'essayer de nous faire basculer, comme dans les nouvelles de Love, dans certaines des nouvelles de Lovecraft, de notre univers, d'un univers connu à un autre. On est dans un autre univers avec des nécromants, avec des magiciens qui ressuscitent des morts, avec des morts qui se battent contre d'autres morts, avec une lutte du bien contre le mal, etc. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie, qui en tout cas, moi, m'a redonné plaisir à la lecture, à retourner dans cet univers-là, alors que ça faisait très, très, très longtemps que je n'y avais pas été. C'est vraiment ce côté simplement effrayant et sans détour. Voilà.
Et cette nécessité de retraduire, est-ce que ça veut dire que dans le passé, il n'a pas toujours été bien servi par les traductions en français ?
Alors, j'ai pas vraiment creusé, mais je pense que oui. Parce qu'effectivement, il y a eu, on a quand même eu des périodes, même chez Néo, de traduction à l'arrache, avec des bouts qui manquent et tout ça. Donc là, il y a une volonté à la fois des traducteurs, mais aussi du préfacier qui fait une très très longue préface, et j'ai oublié son nom, il s'appelle Scott Connors, de vraiment être dans une version érudite de ce travail, enfin, d'aborder ce travail avec le plus de sérieux possible, y compris en augmentant avec les préfaces l'univers, en précisant, en revenant sur le parcours, en revenant sur les références, en faisant une analyse fine du travail de Smith. Et je pense que ces traductions s'inscrivent dans cette perspective-là de relecture, mais dans tous les sens du thème. Un peu comme quand chez Babel, ils ont retraduit Dostoïevski, d'un seul coup, c'était comme si on redécouvrait un univers. Mmh. Et bien là, on est un peu dans ce type d'approche.
Toi qui as lu les différentes versions, tu as vraiment eu l'impression de lire autre chose en lisant cette traduction.
Et bien alors, le souci, c'est que je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire la comparaison. C'est-à-dire que...
Mais tu les as lus...
Mais je les ai lus il y a longtemps. Jadis. Je les ai lus jadis. Et là, en tout cas, je n'ai eu aucun problème à y replonger. Et j'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait de la littérature comparée. C'est-à-dire que je n'ai pas été rechercher mes Néo qui sont au fond des cartons pour les comparer avec cette traduction.
Bon, par ailleurs, les Néo avaient quand même un grand avantage par rapport à Mnemos, c'était la beauté des couvertures dessinées par
Jean-Michel Nicolet. Oui, alors ça, c'est un... Alors ça, c'est justement... parce que là, apparemment, ils ont été chercher quelqu'un qui s'appelle Zdislav Bekzinski pour les couvertures, avec un extrait de peinture qui vient d'un musée d'une ville qui s'appelle Sanok. Personnellement, je ne suis pas fan.
Voilà. Moi non plus. Donc on gardera quand même nos vieux Néo, même s'ils sont mal traduits.
Voilà. Mais peut-être que je pourrais, pour une autre émission, essayer de faire un peu de spéléo et voir de si vraiment... voilà. Mais c'est l'ensemble. Je pense que cette démarche-là de Semnemo, c'est aussi de rassembler les textes qui n'étaient pas forcément traduits auparavant, et de faire un véritable travail d'anthologie. Ils ont aussi commencé à traduire les frères Gintrou. J'avais noté Arkady et Boris Trusgatsky, de manière un peu plus systématique. Donc, ils sont vraiment dans ce travail-là. Et je voulais aussi le signaler parce que je trouve ça plutôt intéressant.
Tout à fait. Zotique de Clark Ashton Smith, c'est donc chez Mnemos, disponible en poche dans la collection qui s'appelle Helios, je pense.
C'est ça.
Et voilà, on arrive au bout de ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai oublié de dire que pour le festival Offscreen dont je parlais tout à l'heure, on a des entrées à vous offrir. Vous trouvez tous les détails du concours sur le site de Radio Panique, www.radiopanique.org, pour des places pour une variété de films un peu issus de tous les cycles présentés au festival. Et quant à nous, La Vie électrique, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. Et on vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et à tous. Salut.
Bonne soirée et bonne semaine.
Ah oui, et on se quitte quand même aussi avec de la musique.
Ah mais oui, bien sûr.
Quand même dire ce que c'est avant de le lancer.
Si je ne m'abuse, c'est John Williams avec un...
John Williams.
N'est-ce pas? Avec un extrait de la musique du film Rencontre du troisième type.
Bonne soirée, à bientôt.